La séance numéro 6967 du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la séance se lit comme suit. La situation en République centrafricaine. L'ordre du jour est adopté. En vertu de l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de la République centrafricaine et du Tchad à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à Son Excellence Monsieur Nicolas Tiengai, Premier ministre de la République centrafricaine. Je demande aux fonctionnaires du protocole de l'accompagner à son siège à la table du Conseil. En vertu de l'article 39 du règlement provisoire intérieur du Conseil, j'invite Madame Margaret Vogt, représentante spéciale du secrétaire général et chef du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur le rapport du secrétaire général sur la situation en République centrafricaine publié sous la côte S-2013-261. Je vais maintenant donner la parole à Madame Margaret Vogt.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mr. President, distinguished members of the Council, I wish to commend the Council for its dedicated attention to the situation in the Central African Republic since the beginning of the conflict in December 2012, and especially following the coup d'etat against the government of François Bozizé on 24th March 2013, and the attendant degradation of security in the whole country. The deliberations of the Council have been followed with much interest within the country and in the region. Expectations are high among the people of the CAR regarding the outcome of this particular meeting of the Security Council, and there is a growing sense of despair among the population that see no immediate reprieve to the ordeal that presently confronts them. There is expectation that the international community would show solidarity with their plight and decide on some clear steps to bring an end to the impunity with which armed groups have unleashed a reign of terror on the entire population. The report before you provides an analysis of the situation in the CAR since the launch of the Seleka offensive in December 2012. It underlines the impact of this rebellion on the people, the state capacity and the infrastructure, on the security, human rights, the humanitarian situation, especially in the medical areas, on access to food, basic needs and services, and the high risk of famine if the current situation persists. It also analyzes the regional implication of the Seleka rebellion. The Secretary General underlines in the report that even at the best of times, the state's capacity and infrastructure in the CAR was already at a rudimentary state, while health services were at an emergency level similar to situations seen in countries that have been in conflict for a long time. Now, even these facilities have all but disappeared, an already challenging human rights environment marked by systemic violations of rights, even by law enforcement officers, has collapsed into a state of anarchy and total disregard for international law, as elements of Seleka turned their vengeance against the population. Indiscriminate and often targeted killings, rampant rapes, assaults on the innocent population, flagrant recruitment of children as soldiers, looting of homes, not just of the rich, but even of already struggling citizens. Even the SOS village was not spared, neither were churches and convents. These acts continue almost 2 months since the Seleka took over the reins of power. The leadership is unable or unwilling neither to control the ranks of the militia groups nor to rein in local commanders. The leaders of the region have strongly mobilized to fill a security vacuum that the rebellion created and have tried to contain the situation in the CAR as the country appears to have become a safe haven to different foreign rebel forces seeking to exploit natural resources for which the CAR is known. Public evidence shows that strip mining of the diamond and gold resources of the CAR have exponentially expanded in areas controlled by Seleka since the rebellion. Further complicating the picture is the growing insecurity in the neighborhood as the conflict now appears to be posing direct threat to security of its neighbors, especially the DRC, Chad, and Cameroon. These serious threats to peace and security of the people of the CAR and the Central African region renders the reestablishment of security and the rule of law in the CAR the highest priority issue. The various summits held in Libreville, N'Djamena, and finally in Brazzaville have laid out solid political ground rules for the new regime in Bangui to follow, as well as a clear roadmap of tasks that must be accomplished to enable the restoration of a democratic dispensation in the CAR. First, the cessation of all hostilities and the restoration of security throughout the territory of the CAR. Secondly, a return to constitutional order that is pegged on the January Libreville peace agreement, with the Prime Minister assuming executive powers whilst the self-proclaimed President Michel Dotoja heads the Transitional Council and is the head of the state of the transition. The scenario as implemented by the de facto authority suggests a different setting. The Transitional Council that was supposed to be representative of all political persuasions in the country and to assume the legislative role of the National Assembly fell short of this expectation as controversy surrounded the procedure through which its members were nominated. Hence, the decision of the heads of state at the 18th March summit at N'Djamena to expand this body to 135. The transitional arrangement is to last for a period of not more than 24 months, ending with elections to which the leaders of the transition would not be eligible to present themselves. While Mr. Dotoja openly declared his acceptance of the decisions of the heads of state of ECAS, he has proceeded in doing the contrary. He insists on his role as president, constantly referring to the decrees naming himself president and his appointment of the prime minister, whom, according to him, he has the power to remove, contrary to Libreville. He continues to run the country by presidential decrees. The international community, especially the African Union, the Organisation de la Francophonie, and this council, as well as many member states bilaterally, have firmly declared their support to the ECAS political framework for the CAR. However, for this to work, a number of important measures would have to be taken. The distinctive roles and responsibilities of the executive prime minister and the head of the transitional government would have to be defined in the framework of a transitional charter that would lay the ground rules for engagement during the period of the transition. Mr. President, on human rights, The Seleka offensive destroyed much of CAR's justice system. In the 10 jurisdictions of the CAR, Seleka elements have destroyed most of the infrastructure that supported the justice system, including courthouses, appeal courts, court dossiers, prisons, prison registries, and prosecutors' files. The justice system, including prisons, will need to be rebuilt entirely. This is after enormous resources had been spent on this through the peace-building fund. The destruction of administrative files related to birth and citizenship will undoubtedly create a problem during the registration of voters for the upcoming elections. The Seleka offensive dismantled the policing architecture. National Security and Defense Forces, the Gendarmerie, Police, and National Army have disintegrated, and despite repeated calls to resume their duties, to date only a small number of the Police and National Armed Forces, FACA, officers have resumed this function. The current crisis underscores the urgency of security sector reform and the urgent need to create an effective and inclusive security sector capable of providing security throughout the country. Broader security sector reform should be based on political consensus. It should include the restoration of state authority, collection of small arms and light weapons, and community recovery programs, as well as the reintegration of ex-combatants into formal security and defense forces. Mr. President, the abuses and violations committed by Seleka combatants and other armed elements, including cases of rapes, maiming, recruitment of children, and forced marriages, are a source of grave concern for the protection of civilians. They constitute serious violations of human rights and humanitarian law. The High Commissioner for Human Rights, the Special Representative for Children and Armed Conflicts, as well as the Secretary General, have expressed their concern about the deteriorating security situation in the CAR. It is critical that the Council unequivocally pronounces itself on the need for these abuses to be stopped now and for perpetrators to be individually held accountable for their action. We believe that the time is ripe for this Council to consider the imposition of individual sanctions against the architects and perpetrators of these gross violations. We do not want a desperate population to be left with no choice but to take the law into their own hands. The International Criminal Court is also closely monitoring the developments in the CAR, and the prosecutor of the ICC has issued a statement warning that crimes committed against civilians were under close scrutiny by her office. We believe the Council needs to pass a similar message. Mr. President, on the humanitarian situation, the latest crisis has exacerbated an already difficult situation for the population of the CAR. Human rights violations against the civilian population and the difficulties of movements have really grossly exacerbated this problem. Over 49,000 refugees have now registered in neighboring countries since December, primarily in the Democratic Republic of the Congo, Chad, Cameroon, and the Republic of Congo. We should not forget that the population of the entire CAR is only 4.5 million. Substantial numbers of refugees continue to arrive in these countries. In addition to the estimated 173,000 displaced since December, another 33,000 persons were already displaced, bringing the total number of IDPs to over 200,000. The number of violent attacks has dramatically increased in the first quarter of 2013 as a result of persistent insecurity in the country. Over 60% of these attacks are attributed to armed groups, at least one person is attacked daily since the beginning of 2013. According to the FAO, 60% of rural inhabitants who depend on agriculture now for their livelihood are affected by the current crisis. More than 80,000 people, including 57,000 children under 5, are estimated to be at risk of severe food insecurity during the upcoming lean season from now till September. These figures are likely to increase with the rise in food prices triggered by the crisis. If seeds are not distributed during the present planting season, coupled with the increase in prices revealed by recent assessments in Bangui, there could be a risk of basic food shortages. This could eventually lead to acute food and nutritional insecurity in both rural and urban areas. With schools closed or occupied and teachers absent, at least 656,000 children currently have no access to education. Difficult humanitarian access due to insecurity and limited road network is the number one constraint for reaching those in need of assistance. Access has become severely curtailed since December amid the breakdown of law and order, with many humanitarian offices and warehouses looted around the country. While all parties have in principle agreed to facilitate humanitarian access, insecurity is limiting humanitarian actors' ability to reach those in need of assistance, including the internally displaced persons, host communities, and victims of human rights violations. Despite these constraints, the United Nations agencies and programs are organizing joint assessment missions to the field to identify needs and the humanitarian impact of the crisis. Missions in some provinces revealed that the humanitarian situation is worsening in the areas of health and water, sanitation, nutrition and protection, food security and education. The most urgent needs are in the food security sector, where households have altered their diet by changes to their food sources and the need of garbage disposal. Further assessments are planned in the coming weeks. Additional funding is urgently required to support the humanitarian response capacity. The annual appeal for the CAR, totaling $129 million, is 29% funded as of 10th May. It was estimated in March that an additional $42 million was required to respond to the new needs triggered by the crisis, and this is likely to increase further. Mr. President, distinguished members of the Council, in concluding, I believe that there's an urgent need to help restore security and stability in the CAR. This should be done, in our view, by deploying a neutral security force that would contain the current state of anarchy and would force the rebel elements to conform to the security framework laid down in Libreville. And this framework is that all forces be cantoned or regrouped, disarmed, demobilized, screened for absorption into a reformed security force. The Security Council and the entire international community must act quickly to protect the people of the CAR from the assault they are under by these armed groups. The situation in Bangui is particularly pressing as the city has the largest population concentration, about 1.5 million people of a population of 4.5 million. But this effort should not, in our view, be limited to Bangui. The presence of such neutral stabilization force, together with the close political accompaniment of the follow-up committee established by the region, and the just-established international contact group to accompany the transition, in our view, is critical in providing a security and political blanket that would enable the authorities implement the Libreville peace agreement and would allow the Prime Minister to play his role as executive head of government. The international effort would also help to ensure that assistance would not be abused in feeding impunity and authoritarianism. We welcome the current initiative by ECOWAS to expand its force to 2,000, and this requires the urgent support of the international community. It would also be critical for the regional force, FOMAC, to review its strategic objectives and concept of operation to give the force some teeth. A meeting is taking place today precisely to look into this issue. This short-term initiative needs to be followed, in our view, quickly by an expanded regional force, possibly coordinated by the African Union, with the support of the international community. However, for the very immediate, a bridging arrangement is required to stop the current carnage. The United Nations, through BINUCA, has worked closely with the region in defining these parameters for the transition that is based on solid democratic principles and legality. Experience has taught us, Mr. Chair, that these principles are not just words. They are critical foundations for sustainable peace and security. To establish a credible and enduring political framework post-transition, the foundations must be laid down now. The crucial transitional tasks, such as the establishment of the election management bodies, the definition of the electoral constituencies, DDR, SSR, regionalization, the development of the rule of law and justice mechanism, social and economic development, and so forth and so on, require a representative body that reflects the interests of the entire society. Otherwise, the transition may result in another round of conflicts. This is why we insist on Libreville as the legal basis. For the United Nations, the role of the Prime Minister as the juridical face of the transition is critical, as this position was a product of an agreement to which everyone had subscribed to. We strongly believe that we should not encourage a system of impunity in a situation through which a democratic order is overturned by force of arms, even when confronted with serious governance challenges. The Libreville Agreement was designed to address some of the grievances tabled by the rebels while respecting the democratic framework. The coup d'etat overturned this transitional process and forcefully imposed a new order. It is critical, in our view, to support the region, ECOWAS and the African Union, and the regional actors in reestablishing the principles of the basic principles of Libreville. Thank you very much, Mr. Chair.
Je remercie Madame Margaret Vogt pour son exposé. J'invite à présent Son Excellence Monsieur Nicolas Tiangai, Premier ministre de la République centrafricaine, à prendre la parole.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais d'entrée de jeu, je voudrais, Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vous présenter mes excuses pour mon retard. Ce retard est dû à des circonstances indépendantes de ma volonté et c'était dû à des problèmes de communication. Et je voudrais donc vous présenter mes sincères regrets. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, mesdames et messieurs les membres du dit Conseil, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant votre noble institution. Je saisis cette occasion pour vous féliciter, Monsieur l'Ambassadeur, pour l'accession de votre pays à la présidence du Conseil pour le mois et vous assurer par là même du soutien total de ma délégation au cours de votre mandature. Je profite de l'opportunité pour rendre un hommage à votre prédécesseur, l'ambassadeur et représentant permanent du Rwanda, pour le travail accompli sous sa responsabilité au mois d'avril. Monsieur le Président, la présentation du rapport du secrétaire général devant votre conseil est également pour moi et mon pays l'occasion de témoigner de la gratitude de la République centrafricaine au secrétaire général M. Ban Ki-moon pour l'appui constant des Nations Unies à la recherche de la paix, la stabilité et du développement de cet État si fragile en proie à une instabilité quasi permanente. Que sa représentante spéciale, Madame Margaret Vogt, et toute son équipe retrouve ici l'expression de notre reconnaissance. Monsieur le Président, le rapport à nous présenter ce jour a le mérite de la clarté et de la concision, car il décrit la situation quasi réelle de ce qu'a vécu et vit présentement la République centrafricaine. En réalité, un drame sans précédent dans son histoire ancienne ou récente se déroule sous nos yeux aujourd'hui dans cet État de 4,5 millions d'habitants. Nous en prenons acte. La crise centrafricaine, longtemps oubliée, doit être à nouveau sous les projecteurs et inscrite à l'ordre du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce drame que vit le peuple centrafricain à tous les niveaux, caractérisé par des troubles à l'ordre public, des violences, des exactions et des exécutions sommaires, des viols, des enrôlements d'enfants, soldats, des crimes contre le patrimoine faunique mondial de l'humanité, comme le cas du braconnage dans le parc des Zangasanga, où plus d'une vingtaine d'éléphants ont été tués la semaine dernière, a entraîné inévitablement des conséquences humanitaires, en particulier l'aggravation de la précarité. Depuis les prises successives des villes de province soumises à des actes de pillage jusqu'à l'entrée dans la capitale Bangui des troupes de la Seleka le 24 mars 2013, la ville de Bangui a connu pendant près de 3 semaines des tirs à l'arme lourde et légère de manière intempestive dans les quartiers, entraînant le déplacement massif des populations à l'intérieur comme à l'extérieur. L'insécurité dans les quartiers liée aux actes de pillage, de viol, de destruction et d'assassinat perpétrés par des éléments incontrôlés de la Seleka. Il en est de même de ceux qui ont été détachés pourtant pour veiller sur les établissements publics et privés. L'insécurité sur les axes routiers et dans les régions rend impossible la circulation des personnes et des biens qui freinent par conséquent la relance économique. L'insécurité permanente au niveau des infrastructures stratégiques, dépôts de stockage de carburant de Colongo, les installations de distribution d'eau, d'électricité et d'opérations de dragage de Lubangui sur la navigabilité, etc. Le pillage systématique des documents et matériels bureautiques des administrations, des produits pharmaceutiques et du matériel médical et biomédical des hôpitaux, la destruction des outils de production avec pour conséquence l'impossibilité pour la plupart des entreprises de payer leurs droits et taxes à l'État. Tout cela menace la stabilité même de l'édifice mis en place par l'accord politique de Libreville et les décisions des sommets successifs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale organisée à N'Djamena au Tchad. Ces violations qui rythment la vie politique des populations en donnent un témoignage affligeant est particulièrement inquiétant. Toutefois, et d'une manière générale, le processus de mise en place des structures recommandées par le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à N'Djamena le 18 avril 2013 s'est déroulé à la satisfaction des Centrafricains quant aux recommandations qui ont été arrêtées. Néanmoins, la situation reste préoccupante malgré la bonne volonté du gouvernement et les efforts de la mission de consolidation de la paix en Afrique centrale, MICOPAX. En effet, certains faits et agissements constatés et qui continuent de préoccuper l'opinion nationale et internationale sont de nature à entraver les efforts en cours du gouvernement et de la communauté internationale en faveur de la sécurité, de la paix, de la stabilité aussi bien en République centrafricaine que dans la sous-région. Face à cette situation chaotique où l'État dans ses profondeurs a été atteint et disloqué, que comptons-nous faire et comment le faire? D'abord au plan politique et institutionnel. Selon les recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale de N'Djamena du 18 avril 2013, un gouvernement, après de larges consultations, sera mis en place dans les tout prochains jours. Un gouvernement d'union nationale. Quant au Conseil national de transition, initialement prévu pour 105 membres, les autorités sous-régionales de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont porté le nombre à 135 en vue de faire représenter le maximum de couches sociales dans la gestion de la transition. Mal élu et en dehors de toute règle, l'actuel bureau du Conseil national de transition est appelé dans les tout prochains jours à disparaître afin de s'adapter au contexte actuel. Il n'est pas non plus utile, il n'est pas non utile de rappeler que le contour de cette transition politique a été fixé par la communauté économique des États de l'Afrique centrale à travers les différents sommets de N'Djamena des 3 et 18 avril 2013 et de Brazzaville du 3 mai 2013. Il est clairement indiqué dans la déclaration de N'Djamena que tous les acteurs ayant contribué à la gestion de la transition, chefs d'État de transition, premier ministre, ministre, membres du bureau du Conseil national de transition ne se présenteront pas aux prochaines élections présidentielles. Notons que la communauté internationale a clairement condamné ce changement inconstitutionnel et par la force. Toutefois, la communauté des États de l'Afrique centrale a pris note de l'élection par le Conseil national de transition de M. Michel Djoto Dia comme président de la République et lui a conféré le titre de chef d'État de la transition. Mais elle a reconnu la légitimité du Premier ministre car nommé à la tête du gouvernement d'Union nationale créé à la suite de l'accord de Libreville du 11 janvier 2013. S'agissant de la situation sécuritaire et de l'état de droit, comme nous l'avons indiqué plus haut, l'effondrement de l'État et la disparition des forces de défense et de sécurité ont laissé un vide sécuritaire ayant engendré une totale anarchie, favorisant ainsi des violations généralisées et graves des droits de l'homme caractérisées par des pillages des biens publics et privés, des arrestations et des détentions arbitraires, des violences sexuelles contre les femmes et des enfants, des actes de torture, des viols, des assassinats ciblés, le recrutement d'enfants soldats et d'autres exactions commises par des éléments incontrôlés de la SELECA et des groupes non identifiés. Cela n'a pas épargné les Nations Unies, dont les résidences du personnel, tant national qu'international, ont été saccagées et pillées, des véhicules emportés. Bangui vit une situation alarmante où les saccages et les pillages des maisons ont atteint un niveau inimaginable et inégalé, ramenant le pays à plusieurs décennies en arrière. Le tout accompagnés du braquage de voitures et les vols à main armée. Les écoles et de nombreux commerces de Bangui n'ont pas entièrement rouvert en raison de l'insécurité. En dehors de Bangui, les conditions de sécurité continuent de se détériorer, des éléments de la Séléka se livrant à des actes de vandalisme, à des violations des droits de l'homme et des agressions contre la population civile. Il faut noter que ces pillages visent avant tout les non-musulmans et épargnent les musulmans. Cette situation est source de ressentiment dans les communautés chrétiennes et attise les tensions religieuses. Enfin, le climat d'insécurité qui règne en Centrafrique compromet la stabilité de toute la sous-région. La LRA qui prospère dans les zones de non-droit reste une menace sur la sécurité et l'état de droit, car durant cette période, elle a tué au moins 7 personnes, procédé à des enlèvements. Au même moment, un chef de cette rébellion a été tué et certains de ses combattants ont fait défection. L'Ouganda, qui avait un temps annoncé la suspension de ses activités de surveillance dans la zone où sévit la LRA suite à une déclaration du chef de l'État de la transition, est revenu sur sa décision suite à un accord trouvé entre les différentes institutions engagées dans la traque de Joseph Kony et ses hommes. Notons que l'offensive de la Séléka a détruit une large part du système judiciaire du pays, ainsi que les infrastructures administratives dont les mairies, ce qui posera à terme les questions de liste électorale lors du processus électoral à venir. L'offensive de la Séléka a réduit à néant l'appareil de maintien de l'ordre. Les forces de défense et de sécurité, gendarmerie, police armée, se sont désintégrées. En dépit des appels répétés qui demandent aux anciennes forces de défense et de sécurité de reprendre leurs fonctions, à ce jour, seul un petit nombre d'officiers de l'armée et de la police ont intégré les rangs. Même si la Séléka, après sa prise de pouvoir, contrôle tous les leviers politiques et militaires du pays, elle n'arrive pas à rétablir l'ordre. En dépit des efforts fournis par le gouvernement dans le domaine du DDR et de la RSS, réforme de la sécurité du secteur de défense, réforme du secteur de la sécurité, les résultats n'ont pas été à la hauteur de l'investissement. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui avait déployé près de 700 hommes, a vu ses efforts portés à 2000 hommes, d'où l'urgence de les déployer pleinement équipés et entraînés avec un mandat d'usage de la force. La réforme du secteur de sécurité, longtemps restée en veille, devrait être activée en vue de jeter les bases de nouvelles forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne la protection des droits de l'homme, la situation qui était déjà précaire s'est dégradée au cours du conflit avec des exécutions sommaires, des attaques ciblées motivées par l'appartenance religieuse ou tribale, violences faites sur les femmes et les filles, le recrutement d'enfants soldats, etc. En somme, toutes les violations des droits sont là et qu'il nous faudrait trouver les voies et moyens de les éradiquer. En ce qui concerne la situation humanitaire, elle s'est aggravée après la prise de Bangui. Près de 47 000 personnes ont fui le pays pour se réfugier en République démocratique du Congo, au Congo, au Cameroun et au Tchad. Près de 1 500 000 déplacés internes. Et en l'absence et l'absence du corridor humanitaire, l'insécurité, le pillage des biens, entrepôts et véhicules des organisations non gouvernementales compliquent l'action de secours et autres assistances à apporter aux populations. Cette situation chaotique nous conduit à demander au Conseil de sécurité de se saisir du dossier de la République centrafricaine, de l'inscrire sur son agenda et qu'elle ne soit plus une crise oubliée. Face à la liquéfaction de l'armée et pour sauver la population, aujourd'hui en grande détresse. Et avant l'indispensable déploiement des forces de la MICOPAX de 2000 hommes, dont nous souhaitons l'ouverture aux autres États non membres de l'espace CEAC, nous demandons à la France, bénéficiant d'un mandat clair des Nations Unies, d'intervenir en procédant par la force au désarmement des éléments de la SILECA, le peuple centrafricain qui souffre en ce moment des exactions de la SILECA en a grandement besoin. Aussi, demandons-nous à l'Union européenne et à l'Union africaine de tout mettre en œuvre pour appuyer financièrement et ou en offrant des moyens aux forces qui interviendraient au titre de cette mission. Demandons-nous aux Nations Unies de désigner un rapporteur spécial chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme en République centrafricaine, afin de déterminer l'étendue des crimes et entamer des poursuites contre leurs auteurs devant les juridictions tant nationales qu'internationales. D'aider à l'ouverture des couloirs humanitaires afin de permettre aux humanitaires d'apporter secours et assistance aux populations et autres personnes déplacées. Appelons la communauté internationale à se mobiliser afin d'apporter une aide d'urgence conséquente, indispensable à la survie de plus d'1,5 million victimes en dehors de secours. Suggérons-nous enfin que dans le cadre de la commission de consolidation de la paix, que la configuration République centrafricaine, dont la présidence restait inoccupée, soit pourvue, et cela de commun accord avec les autorités centrafricaines. Lorsque nous aurons achevé de résoudre la situation sécuritaire, ne serait-ce que partiellement, c'est à partir de ce moment que nous allons nous atteler à reconstruire l'État et envisager de préparer sereinement les élections que tout le monde souhaite transparentes et crédibles. Monsieur le Président, avant de conclure, permettez-moi d'adresser aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à la francophonie, aux États membres de la communauté des États, à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la France, aux États-Unis d'Amérique, à la Grande-Bretagne, à la Belgique, au Luxembourg, à l'Australie, à la Chine, au Japon, à l'Allemagne, à la République du Corée, au Royaume du Maroc, à l'Ouganda, tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont toujours soutenu la République centrafricaine dans son inlassable quête de paix et de stabilité. Tous les remerciements de mon gouvernement. À tous ceux qui se sont laissés gagner par la lassitude, nous leur disons qu'il faut continuer, en dépit de tout, croire en la République africaine et d'agir en sa faveur. Monsieur le Président, aider la République centrafricaine, c'est continuer à stabiliser la sous-région Afrique centrale. Aider la République centrafricaine, c'est consolider la paix en Afrique. Aider la République centrafricaine, c'est s'acquitter d'un devoir de solidarité de la communauté internationale vis-à-vis d'un de ses membres qui s'accroche à la vie, à la paix et à l'épanouissement de son peuple. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Je remercie Son Excellence M. Nicolas Tiangai pour sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Tchad.
Merci, Monsieur le Président. C'est au nom de la présidence de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, que j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole. Je voudrais tout d'abord saluer la présence parmi nous de Son Excellence Maître Nicolas Tiangai, Premier ministre de la République centrafricaine, et lui exprimer nos félicitations et notre admiration pour les sacrifices qu'il consent pour sauver son pays. Il me faut aussi saluer la présence parmi nous de Mme Margaret Bock, représentante spéciale du secrétaire général en Afrique centrale, et prendre bonne note de sa présentation importante et émouvante sur la situation en République centrafricaine. Je voudrais ensuite citer Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, qui, en sa qualité de président en exercice de la CAC, s'adressant à ses pairs le 18 avril 2013 à N'Djamena, au cours du sommet extraordinaire de la CAC sur la RCA, je cite, « La République centrafricaine est comme une plaie au cœur de l'Afrique centrale. Malgré tous les remèdes prescrits au fil des crises que ce pays a connues, la plaie n'est guérie qu'en apparence. Il nous faut nous mobiliser très sérieusement pour mettre fin, je l'espère cette fois-ci, définitivement à cette situation d'instabilité récurrente. » Fin de citation. Monsieur le Président, il nous faut éviter que la plaie ne se gangrène et contamine toute la sous-région. Les prémices d'une telle contamination sont déjà là. La représentante spéciale du secrétaire général les a annoncées, citées, bien décrites. Car depuis le 24 mars, la situation sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine, déjà assez préoccupante, s'est dégradée considérablement. Des bandes armées incontrôlées, représentant plusieurs milliers d'hommes, continuent à piller, rançonner et commettre des exactions sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Les populations centrafricaines dans la détresse attendent en vain des actions concrètes de la communauté internationale aux côtés de la communauté économique de l'Afrique centrale pour mieux les protéger. Certes, la communauté internationale a condamné les changements anticonstitutionnels intervenus en RCA. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a fait de même et n'a pas reconnu le président autoproclamé. Puis, la réelle politique a conduit la communauté économique des États de l'Afrique centrale à préconiser un schéma de sortie des crises qui, tout en restaurant une certaine légalité, tienne compte des réalités sur le terrain. C'est ainsi que des institutions d'une transition de 18 mois ont été mises sur pied. Une feuille de route est établie pour le gouvernement de la transition en vue du redressement de la situation. L'accord politique signé le 11 janvier 2013 à Libreville est proclamé comme le noyau central des engagements durant la période de transition. Monsieur le Président, en effet, comme vous le savez, après le coup d'État, un sommet extraordinaire de la CAC s'est tenu à N'Djamena le 3 avril dernier. Outre les États membres de la CAC, ont pris part à ce sommet Son Excellence Jacob Zuma, le président de la République d'Afrique du Sud, Son Excellence Dr Yahi Boni, président de la République du Bénin, ainsi que l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Le sommet extraordinaire de la CAC a non seulement condamné la prise de pouvoir par les armes en RCA, mais il a aussi appelé les dirigeants de la CELECA, M. Michel Djotodia, président autoproclamé, à se conformer aux accords de paix de Libreville signés le 11 janvier dernier. À l'issue des travaux du sommet, les chefs de l'État de la CAC ont proposé la mise en place d'un collège regroupant toutes les forces vives du pays pouvant jouer le rôle de l'exécutif et d'une assemblée constituante, et ce, dans un cadre d'une large implication, aussi bien des signataires des accords de Libreville que des autres auteurs, acteurs de la société civile et sensibilités politiques. Le principe de l'accompagnement de la transition par le comité de suivi et de la création d'un groupe de contact international comprenant les organisations régionales et internationales, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, a été convenu. Il s'avère que l'ensemble des parties prenantes centrafricaines, y compris le président autoproclamé, ont accepté sans condition la feuille de route proposée par le sommet de la CAC. Dans cette optique, selon les dernières informations dont nous disposons, un Conseil national de la transition, qui tient lieu d'assemblée constituante, a été mis en place sur la base d'une large consultation impliquant l'ensemble des forces vives de la nation centrafricaine. Cette assemblée constituante a pour mission, comme vient de le souligner le Premier ministre, essentielle de rédiger une constitution en vue de préparer des élections dans un délai qui est établi à 18 mois. Le Conseil national de transition a élu le chef de la CELECA comme président pour la période de la transition. Mais ce Conseil national de transition devrait être élargi pour qu'il soit beaucoup plus légitime, représente plus légitimement les populations centrafricaines. Le Premier ministre, Nicolas Tshangai, nommé en vertu des accords de Libreville, est reconduit avec des pouvoirs plus étendus et ne peut être révoqué pendant la période de transition. Si les circonstances l'exigent, le président de la transition et le Premier ministre peuvent, d'un accord commun, procéder à un réaménagement du gouvernement. Le président de la transition, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement de transition ne peuvent se présenter aux prochaines élections. Au terme de cette transition, un référendum constitutionnel, comme je le disais, des élections législatives et présidentielles seront organisées sur la base d'un ordonnancement juridique et d'un calendrier consensuel en vue du retour à un ordre constitutionnel démocratique incontesté. Monsieur le Président, il est évident que tout cela ne serait pas possible sans une sécurité des personnes et des biens, et aussi sans moyens matériels et financiers dont doivent disposer les autorités de la transition pour l'accomplissement de leur mission. C'est justement pour remédier à ces questions que la CEAC a convenu de la création du groupe international des contacts qui a tenu sa première réunion à Brazzaville le 3 mai dernier. Sur le plan sécuritaire, il est urgent de neutraliser les bandes armées. Pour ce faire, il faut rappeler la déclaration de N'Djamena de la CEAC du 18 avril qui souligne la nécessité d'un cantonnement de tous les éléments armés incontrôlés. Il faut rappeler aussi que pour assurer un minimum de sécurisation du pays, les forces de la FOMAC devaient être augmentées à 2000 hommes et la communauté internationale est vivement sollicitée pour soutenir la MICOPAX en moyens matériels et financiers en vue de l'augmentation de son effectif et du renforcement de son efficacité. La Commission de l'Union africaine est particulièrement appelée de prendre les mesures appropriées en vue de l'évaluation des besoins de la MICOPAX en effectifs, équipements et financement, ainsi que la génération des forces en fonction d'un concept d'opération et d'un concept de soutien logistique devant bénéficier de l'appui de l'Afrique et surtout de la communauté internationale dans son ensemble. La communauté internationale, le Conseil de sécurité notamment, a un devoir de solidarité et d'assistance en faveur de la République centrafricaine qui meurt au regard de la situation politique et sociale chaotique dans laquelle se trouve le pays. En attendant la communauté économique des États de l'Afrique centrale fait tout ce qui est en son pouvoir pour venir en aide aux Centrafricains. Ses modestes forces sont engagées sur le terrain pour assister les autorités de la transition à réduire autant que possible l'insécurité. Il est urgent que l'Afrique et la communauté internationale dans son ensemble s'engagent concrètement aux côtés de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et derrière la transition centrafricaine pour porter assistance aux populations centrafricaines en danger. Pour terminer, je voudrais signaler au Conseil que le président de la transition centrafricaine vient d'entamer, dit-il, une visite dans les pays de la sous-région, en commençant par le Tchad. À cette occasion, le président de la République du Tchad, Son Excellence Idriss Déby, président en exercice de la CAC, a tenu à inviter le président de la transition à respecter scrupuleusement ses engagements, notamment à veiller à l'instauration rapide du maintien de l'ordre et de la sécurité et au respect des droits de l'homme. Je vous remercie.
Je remercie le représentant du Tchad pour sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la liste. Les membres du Conseil vont à présent poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultation. La séance est levée.